la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Alors vous savez que le festival Sous les étoiles est un pluridisciplinaire, on va dire. Et j'ai avec moi une personne qui représente bien cette pluridisciplinarité, c'est Pauline Pallier, bonjour.
Bonjour.
Alors j'ai vu dès la première exposition, donc entre le 5 et le 12 juillet, j'ai vu ces très belles photos en noir et blanc accrochées. Et je me suis dit, cette personne doit être intéressante. Donc, merci. Mais je le pense vraiment.
Ben avec plaisir.
Nous avons un peu donc bavardé. Grégoire nous a mis en contact. Et nous allons parler de beaucoup de choses. Puisque vous êtes photographe, mais votre premier métier, c'est monteuse. Et c'est comme ça que vous connaissez Pascal, que vous connaissez Grégoire. Et ça fait plusieurs années qu'il voulait vous exposer. Et maintenant, c'est fait.
Tout à fait, ouais. Il a vu les choses en grand, déjà, parce qu'on en parlait depuis quelques temps, et on a imaginé exposer partout sur le Fort Vauban, on voulait faire descendre des grandes bâches sur les murs.
Bon, là, vous avez restreint, mais là, c'est déjà beaucoup.
Voilà, on a restreint, mais on a gardé quand même un côté un peu... comment dire, un peu, pas gigantesque, mais en tout cas un peu monumental, voilà. J'étais pas habituée à ça, et puis je me disais, je lui avais dit oui au départ, en me disant, bon, on verra bien.
Est-ce que j'ai bien fait,
voilà. Est-ce que ça nous mène, et puis on l'a fait, donc c'est... Voilà.
Il y avait un thème précis, vous avez donné un thème précis?
Alors, les thèmes étaient de montrer quand même les photos des précédentes éditions du festival, parce que je suis venue chaque année.
À l'entrée, c'est-à-dire dès la billetterie, on tourne à droite et dans le petit escalier, les très belles photos de l'équipe, les 5 compères du début.
Exactement, déjà, on a conçu ça un peu comme un parcours. Hein. Donc on s'est dit à l'entrée, on met une forêt, ce qu'on appelle la forêt des gens du festival. Après, on s'avance un peu vers le pont-levis, à droite, à gauche, recto, verso. On a quelques très grands formats.
Qui sont sous bâche au moment où on enregistre, parce qu'il pleut.
Il pleut viotte.
Et puis après, on rentre, moi j'appelle ça le tunnel, mais c'est peut-être pas un tunnel, mais le couloir.
Le couloir, ça fait moins peur, peut-être.
Ouais. Mais vous savez, ça a été une prison, donc on est un peu dans l'ambiance, surtout avec ces deux bâches qui ferment, c'est tout de même un peu angoissant,
complètement.
Je trouve. Et donc, pas de thème précis, mais des personnes, plutôt des portraits.
Ben, on savait donc que les thématiques étaient quand même portées sur des gens du cinéma, donc ceux qui font le festival, ceux avec qui je travaille aussi, et puis une troisième thématique au départ qui était celle du portrait et des regards. Donc voilà, il y avait beaucoup de photos.
Oui, on croise les yeux des gens. Hein.
Voilà, on croise les yeux des gens, ou alors sont des gens qui nous regardent ou se regardent d'une façon un peu étrange. Et sur cette thématique-là, on a réduit un peu le nombre de photos qu'on avait choisies parce que il y en avait vraiment beaucoup.
Là, il y en a combien? Vous savez le nombre en tout?
Je pense qu'il y a une soixantaine, peut-être une soixantaine de photos. Et puis le parcours se termine soit dans la salle de projection en plein air, soit au bar, qui est forcément un endroit de passage, par un très grand format imprimé sur toile.
Il fait bien 3-4 mètres sur...
Ah, il fait 4 mètres.
Moi, alors, je suis restée scotchée devant en me disant, mais c'est qui? Comme c'est un festival de cinéma, je me suis dit... C'est un réalisateur, mais je ne connais pas. Et non, c'est un inconnu, en fait.
Oui, c'est un inconnu. C'est une pure photo de rue. Hein. C'est une photo prise sur le vif, Place de la République à Paris. Mais c'est vrai que dans le format, et je pense qu'en ça, souvent la photo rejoint le cinéma, hein. C'est que le personnage prend une ampleur incroyable de par sa dimension. Il est quand même plus grand que nous. Et son attitude et son lieu dans l'espace. Voilà,
c'est très interpellant, hein, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens debout en train de boire, de manger. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être les pieds. Et puis le regard, on se déplace, donc c'est intéressant.
Voilà.
Alors, votre métier, c'est monteuse, on l'a dit, mais cette passion de la photographie, elle vous est venue très jeune, de famille, le hasard, le...
Un peu les deux, en fait. Elle est déjà venue en même temps que la passion du cinéma. Donc, il y avait un attrait pour
l'image.
Pour l'image, en tant que telle. Hein. Les histoires, certes, mais vraiment cet intérêt pour le cadre et le fait de regarder. Et donc, c'est mon professeur de philo. J'avais fait une section cinéma à Nîmes, à Saint-Stin.
Oui, oui, vous êtes nîmoise.
Voilà, je suis nîmoise. Et c'est mon prof de philo de l'époque, qui lui-même faisait beaucoup de photographies, qui est très cultivé. Et qui a partagé tout ça et qui m'a donné envie.
Une
ça.
Vocation.
Voilà, qui a créé une pure vocation que j'ai suivie jusqu'à aujourd'hui.
Alors le noir et blanc, c'est toutes vos photos sont noir et blanc ou vous faites aussi de la couleur? Parce que là, il n'y a que du noir et blanc.
Parce que j'ai définitivement arrêté d'essayer la couleur. Je pense qu'il faut un talent particulier que je n'ai pas, ou en tout cas trouver une approche qui n'est pas la mienne.
Mais peut-être un jour, je veux dire.
Peut-être un jour. Par contre, ce qui est resté ma marque de fabrique, si c'en est une, c'est de continuer en argentique.
Ouais.
Et donc de se restreindre un peu dans le... Voilà, on ne peut pas être goulu hein, quand on est en argentique. Et du coup, ça, avec le temps, ça a donné, je pense, un intérêt supplémentaire aux photos que je faisais. Voilà, parce qu'il y a cette magie de la chimie qu'on
ne peut
pas reproduire.
C'est presque manuel, c'est presque... Enfin, c'est pas manuel, mais il y a une réaction chimique qui... Et vous faites les tirages vous-même
Alors non, parce que ça, c'est un processus...
compliqué, mais vous y assistez.
Alors, exactement, j'y assiste, et puis j'oriente d'une certaine façon, et un peu toujours, mais c'est pas moi qui mets les mains dans la chimie, parce que ça me correspond pas.
Oui.
Moi, j'aime ce qui est rapide et de l'ordre de la rencontre.
Mais dès qu'on a parlé, vous m'avez dit, en fait, j'ai fait des études de monteuse, mais je voulais faire du cinéma et je me suis rendu compte que c'était pas moi. Donc vous avez une grande lucidité sur vous-même, une intelligence de se comprendre.
Alors j'ai commencé par ça aussi, parce que j'avais fait 4 années de psycho. Donc en termes de sous-couches, j'ai commencé par les sous-couches pour finir par ce qui est plus léger, on va dire.
Mm-hmm.
Et donc c'est vrai qu'il m'a fallu 5-6 années pour revenir à cette passion d'adolescence qui était le cinéma, la photo et l'image en tant que telle. Et après...
Ça se combine tout ça, en fait.
C'est vraiment ça. Ça s'est entrecroisé, ça s'est enrichi, ça s'est éclairci beaucoup. Et il reste cette particularité qui est que quand je travaille en montage ou que je fais un film, j'ai du mal à faire des photos. Mais que tout le reste du temps, j'ai ce besoin, en fait, de garder quelque chose de ce que de ce que je vois, de qui
mais,
je rencontre.
Mais je pense que c'est un fait de concentration, c'est-à-dire il faut savoir se poser, il faut savoir s'identifier, il faut savoir réfléchir d'une certaine façon, parce que vous venez de le dire également, réalisatrice, donc la vie fait qu'on est obligé de faire des choix, où il y a des hasards, des rencontres, et nous parlerons peut-être plus à la fin justement de ces sujets politiques, que je vous disais, mais vous avez fait Sciences Po, non, pas du tout. Et pourtant, vous avez maintenant une culture politique et dans le contexte, on est le 6 juillet, donc c'est tout de même important. Et je pense que vous allez réaliser de nombreux films à propos de ces législatives, non?
J'aurais surtout dû en réaliser un qui avait démarré au mois de juin sur les présidents face aux crises. Et qui a été immédiatement suspendu et remis à septembre, le temps de savoir quel régime, j'ai envie de dire, nous allons fonctionner à partir de dimanche.
Donc, quand je vous ai présenté, j'ai hésité entre monteuse, réalisatrice, photographe. En fait, vous êtes les trois, peut-être même d'autres choses en plus.
Alors, je suis les trois, mais à tour de rôle. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'affection pour les gens qui font trop de choses.
Oui.
Et c'est peut-être pour ça que je fais pas tout en même temps, d'ailleurs. Mais je tiens à préciser que la photographie, c'est quand même, ça a toujours été de l'ordre de la photo amateur. Et c'est une démarche qui est quand même un peu différente, où on ne gère pas la pression de la même façon, où on ne regrette pas les photographies qu'on n'a pas faites, je crois.
Oui, il n'y a pas la pression de celui qui commande, en fait.
Voilà.
Mais vous avez pourtant fait 2 expositions avant celle-ci. Parce que moi, je pensais que c'était votre première exposition. Vous en avez fait 2 à Paris avec ces mêmes photos ou moins?
Non, alors il y a quelques photos qui se recoupent, mais surtout elles étaient organisées sur 2 thématiques différentes. La première, c'était le vrai du faux. Parce qu'en regardant ce que j'avais photographié là depuis presque 25 ans, je ne préfère pas compter, on pouvait se rendre compte, enfin je me suis rendu compte que... Il y avait souvent des thématiques qui ressortaient un peu d'elles-mêmes, et notamment cette dimension un peu de l'illusion du vrai, avec des personnages qui étaient soit pas déguisés, soit dans une lumière qui qui leur donnait une apparence différente. Il y avait toujours cette dimension un peu du faux-semblant, et avec pas mal d'humour. Et donc, c'est devenu le thème de la première exposition.
D'accord.
Voilà. Et puis la deuxième expo, j'en parle, c'est toujours intéressant quand on doit choisir une seule image alors qu'on en a fait plusieurs. Et la deuxième expo était... alors, il n'y avait pas de thématique en tant que telle. Par contre, elle était organisée sur des doubles cadres. Et donc, il y avait
la bonne photo
et la photo d'avant ou la photo d'après qui pouvait laisser au spectateur le choix de se dire... Bon, voilà, on peut considérer que c'est celle-là la bonne photo, mais peut-être que c'est
peut-être
l'autre.
Peut-être pas.
J'aimais bien ça.
Et quand vous avez fait ces expositions, c'est pour être connu, c'est pour les vendre ou c'est simplement pour le plaisir de partager ou peut-être tout?
Alors, tout ça aurait été bien. Au départ, c'est qu'on me reprochait beaucoup de faire des photos qu'on ne voyait jamais. Donc, au bout d'un moment...
Vous avez des amis.
Ouais. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, d'accord,
je vais les montrer.
Je vais les montrer et je vais faire plaisir à un certain nombre de personnes. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que ça me faisait plaisir à moi aussi. Et ça a démarré comme ça. Et après, j'y ai pris goût parce que, à force de ne pas regarder ce qu'on fait et de ne pas montrer, on ne se rend pas compte vraiment de ce qu'on fait. Et ça, je crois que c'est très important. Et ça. C'est un des points où la photo et le cinéma se rejoignent, c'est que c'est fait pour les autres, quoi. Enfin,
et quand vous les avez vues accrochées, vous vous êtes retrouvées ou vous aviez l'impression que c'était des photos faites par quelqu'un d'autre?
Je les ai redécouvertes, ça c'est sûr. Lors de la première exposition, ça a été une vraie surprise. Ça m'a décomplexée sur le fait d'être l'auteur de tout ça. J'avoue que d'un coup il y a la honte a sauté et je me suis approprié tout ça. Et puis et lors de l'expo proposée par Greg et Pascal, c'est vrai que de par la nature des formats et leur fabrication, c'est pas du papier photo, c'est pas conventionnel, on va dire. C'est encore une autre...
En plein air. Avec beaucoup d'animation, beaucoup de gens qui passent. C'est intéressant pour vous, je pense, de voir la réaction des personnes.
Complètement.
Ceux qui passent sans rien voir.
Oui, alors, bon, ceux-là, je trouve que c'est quelque
part... Ils ont le droit,
Oui, mais on est habitué à ça, je veux dire. Mais non, ce qui est intéressant, c'est évidemment d'entendre
laquelle
ce que les gens...
Interpelle aussi.
Voilà.
Laquelle interpelle. Ouais. À quel, vous parlez de ce psycho, à quelle émotion... À quel élément de soi-même ça raccroche. Alors je vais vous demander de choisir là aussi, parce que je vous ai demandé des musiques, puisque c'est une tradition dans l'air de rien de mettre une respiration musicale, et vous allez être obligé de choisir entre les deux que vous m'aviez proposé. Il y en avait même quatre, on avait fait un choix de deux. Alors, ou vous choisissez l'instrumental de Defilman au Sénat, Le chien de la casse, ou L'enfant sauvage de J.R. J.R. c'est plus lié... la photo, le cinéma, donc laquelle des deux vous choisissez?
Mais je veux bien qu'on commence par J.R. Alors le nom du compositeur, c'est Enfant Sauvage, hein. c'est pas l'enfant sauvage de Truffaut.
Non, j'ai bien compris.
et c'est évidemment intéressant parce que c'est l'utilisation d'une manière humaniste absolument formidable de ce que peut produire la photographie collective, et que c'est quand même un art qui est très... individuel, hein, ça fait partie un peu comme quand on joue d'un instrument de musique, on peut jouer tout seul, on n'a pas besoin d'une équipe. Là, il a ouvert, je trouve, le champ du possible avec ses actions photographiques, et c'est évidemment ce morceau-là que...
Eh bien, on va l'écouter.
Que je choisis en premier.
It's
Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Pauline Palier au festival Une salle sous les étoiles. Un jour de pluie, donc nous sommes à l'intérieur. La séance de cinéma aura lieu également à l'intérieur. Alors que normalement, c'est une salle sous les étoiles. Et regardez, vous venez tous les ans. De toute façon, vous êtes nîmoise de cœur, j'ai l'impression.
Tout à fait.
Donc vous venez tous les étés. C'est vrai que regardez, quand on est dehors, ça donne une autre dimension. Mais le principal, c'est d'être devant l'image, devant le grand écran. Et je pense que tout le monde est convaincu que le grand écran a des... Comment dire,
des vertus
incomparables.
Tout à fait.
Alors, nous avons parlé au début, quand vous avez fait vos études, et puis, après, vous êtes tournée vers le... Enfin, vous êtes monteuse professionnelle, vous montez quoi ? Vous êtes spécialisée dans certains films, ou vous prenez ce qu'on vous donne ou ce...
Alors non, j'ai toujours choisi.
C'est un luxe.
C'est un luxe, mais je pense que c'est très important parce qu'on se retrouve après...
Votre sensibilité est aiguisée, quoi.
Exactement. Oui. D'abord, ça travaille la sensibilité, et puis ça donne quand même, non pas une marque de fabrique, mais comme en France, on fait beaucoup de catalogues... Mm. On catégorise les gens. Il faut faire attention de bien suivre quand même son chemin.
Et vous, votre chemin, vous le définissez comment ?
Comme mon amour de départ fait que je continue à monter beaucoup de courts-métrages, de fiction, et pas de longs. Et c'est un choix. Ça a été un choix un peu contraint au départ, mais maintenant je l'assume complètement parce que...
Vous avez dit que vous étiez rapide, un peu impatiente, donc vous préférez peut-être ce qui va vite. Enfin, c'est un métier qui demande beaucoup de temps, je pense.
Oui, mais... ça demande beaucoup de patience et de disponibilité à l'autre, en fait. Hein. Et ça, c'est évidemment pas un problème, c'est même beaucoup de plaisir. Mais par contre, le court-métrage a de ça d'intéressant qu'il dépend beaucoup moins de pression financière et qu'on a affaire de jeunes gens... Qui sont pleins d'idées, qui sont peut-être pas...
Plus malléables, enfin, qui écoutent plus peut-être votre avis, parce que c'est vrai que être monteur, c'est pas se soumettre aux autres, c'est aussi avoir sa part de liberté, sa part de...
C'est d'avoir sa vision qui va se mélanger à celle du réalisateur.
Là, il y a un atelier de table de montage et c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait, mais bon, c'est une goutte d'eau dans un océan, mais ça peut être intéressant de voir combien les choix... Et c'est vrai que plusieurs fois, j'avais vu plusieurs montages dans un... Je ne sais plus exactement où, mais il y avait plusieurs montages proposés et c'est vrai que ça peut changer totalement la vision du film.
Alors, c'est... complètement. De toute façon, c'est un métier qui repose sur quelques règles.
Et après, c'est
lié à l'espace. Et voilà, après, chacun s'approprie... l'histoire selon son envie, sa vision et ses goûts.
On peut lui faire dire en fait un peu autre chose que a fait celui qui l'a conçu. Et puis alors, de fil en aiguille, vous êtes spécialisée dans la politique, des films, comment on va dire, parlementaires, des films...
Des films politiques, des documentaires, peut-être on peut dire que ce sont des documentaires de société, parce que ça parle de notre époque, de notre système. Donc j'ai fait beaucoup en montage de documentaires qui sont des portraits.
D'hommes politiques.
D'hommes politiques ou d'écrivains, comme Salman Rushdie, on peut dire que c'est quand même un écrivain très politique.
Quand on voit ce qui lui est arrivé, le pauvre.
Voilà, ou Mitterrand, Hillary Clinton, enfin des personnages très influents. Hein. Et puis d'autres documentaires, beaucoup plus récents, d'histoire politique, sur l'histoire de la Ve République. Donc comment les présidents de Gaulle à Macron ont fait face à des problèmes récurrents. Qui sont soit des problèmes de société, soit des réformes sociales.
Internationaux,
le terrorisme, etc. Donc ce sont des films qui ont une vocation à être didactiques, qui sont peu polémiques, et qui nous décryptent, on va dire, l'actualité, enfin en tout cas notre période actuelle au regard de ce qui s'est passé passé.
Au point de départ, vous n'aviez pas du tout cette, cette culture politique. Vous l'avez acquise en fait au fil des expériences. Et puis vous m'avez dit une phrase qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent pas réaliser, mais qui connaissent. Et vous savez réaliser, et vous avez peu à peu appris.
Mais d'abord, on sait réaliser, je pense, quand on est monteur, dans oui. une certaine oui. mesure, parce qu'on on apprend sur les erreurs des autres.
Ouais. c'est joli, ça.
C'est quelque chose que j'ai compris très tôt à l'école ouais. de cinéma, et j'avais fait une première année en réalisation, que j'avais réussi malgré un numerus clausus assez serré, et je leur avais dit, c'est très gentil de me prendre, mais je préférerais aller en montage.
Et, quelle drôle d'idée, madame.
Et voilà. Donc, à l'époque, ils n'avaient pas bien compris. Mais bon, moi, je m'en moquais. C'était vraiment ce que j'ai découvert le plus important, je crois, parce que...
Mais je reviens à ce que je disais au début. Vous avez une lucidité... vous avez eu très jeune la lucidité sur vous-même.
Et sur oui, vos choix. On est notre propre matériau, donc...
Mais oui, non, mais il y a des gens qui mettent des décennies à le trouver ou qui ne le trouvent jamais.
Dans ces métiers-là, quand même, et à l'heure qu'il est, c'est important... pour ce que pourra oui. devenir la culture, mais on travaille avec nous-mêmes, hein, avec soi-même, donc c'est très important, je trouve, de savoir ce qu'on peut apporter à l'autre quand on travaille pour lui.
Et quand la politique, ça vous intéresse de plus en plus, j'ai vu que dans les photos, là, dans le couloir, il y a Philippe Pujol, bon, que je connais, enfin, que j'ai interviewé une fois, qui est très à la pointe sur Marseille. Vous m'avez parlé de son dernier film, là, Péril sur Marseille. La politique, ça vous intéresse ?
Alors, ça, c'est un film qui est avant même d'être politique de par son sujet, parce que c'est le portrait du plus vieux quartier de Marseille. C'est pas son dernier film.
Mais c'est vrai.
Voilà, c'est un film qui date d'il y a 5 ans maintenant et qui est très proche. C'est vraiment un film néo-réaliste dans le sens où c'est ça part de l'histoire et de la vie quotidienne des personnages pour raconter un état de la société, voilà. Et ça, j'avoue que c'est une façon de faire pour moi qui est que j'adore parce que ça donne une place colossale au montage. Il n'y a pas besoin de commentaires et il y a une vraie humanité.
L'image parle d'elle-même.
Exactement.
Fait.
C'est-à-dire, c'est une façon de parler des gens en les laissant se raconter eux-mêmes et pas en les racontant d'une façon extérieure.
C'est ce que j'y tiens beaucoup. C'est ce que vous faites avec la photo, en fait. Parce qu'il n'y a pas de légende, il n'y a pas de...
C'est vrai.
Parfois, il y a un petit texte en dessous. Là, pas du tout, mais je pense qu'il n'y en a pas besoin, en fait. Chacun fait sa légende.
Oui.
Est-ce que vous avez...
C'est une belle formule, ça aussi. Chacun fait sa légende, oui.
Est-ce que vous auriez envie de faire une légende? Parce que bon, vous travaillez par le montage, par l'image, donc pas par les mots, mais peut-être que vous écrivez pour vous, et que si vous deviez faire une légende, une petite explication, non, ça vous semble hors propos. Peut-être.
Disons que quand les gens pourraient faire référence à l'exposition en cours, on a mis une légende là où les gens étaient un peu connus, c'est-à-dire dans le sens où ils ont rôle dans la vie médiatique actuelle. Les autres, c'est pas qu'ils sont évidemment pas intéressants, c'est juste que...
On les connaît pas.
On les connaît pas, donc c'est pas, ça change rien qu'ils s'appellent Vincent, François ou Paul.
Ouais. Par contre,
il y a quand même, je trouve, quelque chose de personnel et d'une identité qui ressort tout seul d'une photo qui est bien prise.
Non, mais je vous acculais un petit peu dans ma question. Mais
après, juste pour aller dans votre sens, ce que j'adorerais faire et qui reste à faire, c'est un travail photographique documentaire où on s'installe dans un lieu avec les gens et où là, on pourrait potentiellement y associer du texte. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui m'intéresserait.
Voilà, une autre idée.
Mais il y a quelque chose, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu et qui est quand même intéressante. C'est que tout à l'heure, vous avez dit... ils ont le savoir et j'ai le faire. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est...
Savoir et faire, oui.
Voilà, savoir et faire, je pense que ce sont deux choses qui se complètent à merveille et qu'il faut dire aux gens parce que les films sont des choses complexes à faire. Et il ne faut pas croire que c'est une personne qui fait tout.
D'accord. C'est un travail d'équipe. Hein,
c'est un travail d'équipe. Et quand on a des auteurs qui connaissent très, très bien un sujet... On n'a pas besoin de faire Sciences Po. Par contre, il faut pouvoir les compléter et garder cet œil clé qui permet de faire des films compréhensibles pour tous, en fait. Ça, c'est une dimension qui est importante à la télé, je trouve.
Alors, je parlerai encore très longtemps avec vous, mais je pense que c'est un moment agréable pour vous aussi. C'est ce que je recherche, moi, dans les interviews. Donc, merci à vous. Et nous allons finir en générique de fin, la deuxième musique que vous avez choisie. Je ne veux pas vous frustrer. Vous avez choisi une musique d'une femme, Delphine Malasona. Dans Chien de la casse, on parle beaucoup de Chien de la casse avec Raphaël Quénard. Hein, on en a parlé là avec Michel décidément, j'y arriverai jamais.
Azanavicius.
Et vous avez choisi le thème instrumental et on termine en, en musique, mais la musique, elle crée plein d'images. Donc on est exactement dans votre, je ne trouve pas le mot, dans votre continuité. Merci à vous, Pauline.
Merci beaucoup.